RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Voilà, 17h02 sur RMC, vous retrouverez évidemment les informations tout à l'heure à 18h, mais nous sommes dans la grande bagarre de cette 15e étape du Tour de France à 18 km 200 de l'arrivée. On va tout de suite retrouver la moto RMC qui se trouve dans derrière un groupe de contre-attaque. Georges Quirino.
Derrière le groupe de tête, Christophe, où il y a désormais plus qu'un homme de tête, un homme en tête, c'est Rafał Majka, qui il y a un peu moins d'un kilomètre, qui a accéléré et qui a lâché Jarlinson Pantano, le Colombien de l'équipe Yann Cycling. Il est parti tout seul, Rafał Majka, dans cette ascension, dans ces lacets du grand colombier, alors que l'on est à maintenant un peu moins de 5 kilomètres de ce sommet, et dans la voiture Tinkoff derrière, Christophe, qui a pris place au passage sur la ligne d'arrivée à Culoz, sur le siège passager, le grand patron Oleg Tinkoff, qui s'est positionné sur le siège passager pour encourager son coureur Rafał Majka, qui a 90 mètres d'avance sur Pantano maintenant.
Voilà, il n'a pas encore fait une différence nette, Majka, mais il attaque sévère. Fred, également des attaques en tête de peloton maillot jaune.
Oui, les Astana menaient ce peloton maillot jaune devant les Sky tout à l'heure, les Astana avec Tanel Kangert, avec Diego Rosa, avec Vincenzo Nibali qui est venu tirer quelques bouts droits tout à l'heure dans la traversée de Culoz avant la montée des lacets du Grand Colombier. On est à 18 km de l'arrivée. Fabio Aru a accéléré, le Sard, l'Italien de l'équipe Astana, vainqueur de la Vuelta il y a 2 ans, troisième du Giro l'an passé, et qui est le leader désigné de l'équipe kazakh cette année sur le Tour de France. Fabio Aru qui a été accompagné par un seul homme dans ce groupe des favoris, Alejandro Valverde. Valverde, coéquipier de Quintana. Fabio Aru est dixième au général à 5 minutes 16 de Christopher Froome. Valverde 5e du général à 3.17 de Froome. Du coup, les Sky ne s'affolent pas. Christopher Froome a à nouveau mis deux coéquipiers de l'équipe Sky devant lui. On contrôle.
Oui, on contrôle pour l'instant chez Sky, Cyril. Ils sont toujours aussi impressionnants, les boys de Chris Froome. On ne s'affole pas, et derrière, évidemment, difficile d'attaquer dans ces conditions.
Oui, d'autant que j'ai l'impression que le seul qui pourra attaquer, c'est Pouls.
Coéquipier de Christopher Froome chez Sky.
Oui, c'est lui qui mène l'allure. On a l'impression d'une très grande facilité. C'est pourtant Aru qui attaque et Valverde. Et on laisse faire, on laisse prendre 30 mètres et Pouls continue à son rythme. Et je vois pas comment on va pouvoir le faire sauter dans cette ascension.
Voilà, ils sont d'une série.
Je parlais pas du maillot jaune, c'est hors débat, mais Pouls.
Fred.
Oui, un groupe maillot jaune composé de 12 coureurs, Pouls, c'est Geraint Thomas, Mikel Nieve le Basque, le maillot jaune Christopher Froome, Dan Martin est là, tout comme Bauke Mollema, évidemment deuxième du classement général, Romain Bardet présent, Roman Kreuziger également, Luis Mengis, le Sud-Africain, Valverde et Quintana, Aru est rentré dans le rang, le duo Richie Porte et TJ Van Garderen pour BMC, et le porteur du maillot blanc Adam Yates, qui n'a pas l'air dans un grand jour.
Déjà l'autre jour, il y a quelques minutes, il était en difficulté.
Il
dans
est en serre-file dans ce groupe de favoris. On est à 5.40 de la tête de course.
Le grand colombien Nairo Quintana n'a pas l'air une nouvelle fois au mieux aujourd'hui. En tous les cas, il se contente pour l'instant de suivre le rythme imposé par les coéquipiers de Froome.
Oui, tout à fait. Pour le moment, on vient de passer aux 5 km du sommet pour le groupe maillot jaune, et toujours pas le moindre signe de rébellion de la part de Quintana, le Colombien, qui se contente de suivre, ou tout simplement qui ne peut que suivre l'équipe Sky, puisque, on le rappelle, il y a encore deux équipiers aux côtés de Christopher Froome. C'est dire si cette équipe Sky est prête, c'est dire si cette équipe Sky domine le Tour de France cette année encore une fois. Le Colombien, j'ai bien peur qu'il ne soit capable uniquement de suivre. Peut-être verra-t-on une attaque de Quintana dans les 3 ou 4 derniers kilomètres de cette ascension, mais rappelons-le, derrière il y a une descente très technique, une descente où Chris Froome avait déjà mis en difficulté Nairo Quintana lors de la première étape des Pyrénées.
Et si c'était encore lui qui attaquait tout à l'heure, ce serait plus surprenant quand même. Cyril, il va pas aujourd'hui, il se contente de regarder ce que font les autres, notre ami Chris Froome.
Bien, pour l'instant, puisqu'il a deux chiens de garde là qui font monter très vite, et vous savez, c'est pas évident d'attaquer quand vous avez un coureur qui fait un tempo à la limite. Vous attaquez, vous prenez 20 mètres, et quand vous avez pris 20 mètres, il y a bien un moment où il faut refaire un petit peu la dette d'oxygène, et là vous plafonnez et vous pouvez pas y aller, alors que derrière on n'est absolument pas monté dans le rouge, quoi. Ouais.
Le peloton maillot jaune qui est dans les lacets de ce grand colombier, loin derrière les hommes de tête, 5 minutes 42 pour l'instant d'avance entre l'homme de tête, le polonais Majka de la formation Tinkoff,
absolument déjà vainqueur de 3 étapes sur le Tour de France. Il est toujours Fanny sur le Tour 2016, mais il va bien aller la gagner, son étape sur le Tour de France 2016. Derrière lui, Jarlinson Pantano, son ancien compagnon d'échappée, tente de limiter la casse. Et derrière Pantano, on a Alexis Villermoz et le Suisse Reichenbach qui sont à 30 secondes désormais, 30 secondes de la tête de course. Rafał Majka qui va tenter de conserver cette avance parce que ce n'est pas le meilleur descendeur du peloton.
Il n'est pas convaincu. Tu n'es pas convaincu par les écarts?
Non, moi je me fierai pas au GPS puisque la voiture IAM vient de s'écarter. On est à moins de 10 secondes de Jarlinson Pantano qui était pointé à peine 10 secondes lui-même de Rafał Majka. Les écarts se resserrent sous l'impulsion tout simplement de Sébastien Reichenbach qui est accompagné de Villermoz, mais je pense et ce qu'on voit à l'écran c'est que Villermoz n'est capable que d'accompagner Sébastien, il ne peut pas passer de relais. Sébastien Reichenbach fait une très très belle dernière montée, attention ça n'est pas joué pour la victoire d'étape.
Ouais, et Villermoz est un très bon descendeur en revanche, même s'il a l'air un peu limité aujourd'hui dans l'ascension, en revanche il pourrait se refaire la cerise tout à l'heure dans la descente
venant du VTT. Oui, Villermoz est très à l'aise techniquement et cette descente certainement il la mettra à profit pour exploiter ses qualités.
Si Villermoz rentre sur la tête de course grâce au soutien et à l'aide de Sébastien Reichenbach, c'est vrai qu'il a davantage de chance que Reichenbach lui-même parce qu'on a vu tout à l'heure que le Suisse de la formation FDJ, leader de substitution dans l'équipe de Marc Madiot, est un très très piètre descendeur.
Allez, on va retrouver la moto RMC, Georges Quirino qui se trouve juste devant l'homme de tête, le Polonais Majka.
Georges, il est plus là, il a disparu.
Oui, Christophe.
Ah oui, il est là.
Christophe, voilà, on a une coupure dans cette ascension du Grand Colombier. On est sur les pentes les plus difficiles maintenant, un peu plus de 3 km du sommet. On est passé devant l'homme de tête, devant Rafał Majka qui serrait les dents. Le maillot jaune fluo de l'équipe Tinkoff qui est encouragé par son patron Oleg Tinkoff qui est dans le siège passager juste derrière. On a vu Jarlinson Pantano, le maillot grand ouvert qui semblait quand même être en difficulté en tous les cas, pas être en mesure peut-être de revenir sur l'homme de tête. Et on a vu derrière Pantano Reichenbach, le Suisse Sébastien Reichenbach, le Suisse de l'équipe FDJ qui tractait Alexis Villermoz pour le faire revenir, mais ces deux hommes-là étaient en train de revenir sur le Colombien Pantano dans les derniers kilomètres de cette ascension délacée du Grand Colombier.
Oui, mais pour Villermoz c'est compliqué, on le disait il y a quelques instants, il était à la rupture et il vient d'être largué par Reichenbach qui emmène un train d'enfer dans cette montée, hein, Jérôme.
Ouais, il fait une très belle montée, Sébastien, et il a mis en difficulté Alexis Villermoz qui n'est pas capable de suivre le Suisse. Sébastien va rentrer sur Pantano, il va falloir se servir de Pantano dans la descente. On le dit, Sébastien n'a pas une grande qualité de descendeur et c'est ce qui risque de pêcher pour ces deux hommes qui vont se retrouver à deux en contre-attaque du Polonais Majka qui s'envole véritablement vers une victoire d'étape.
Rafał Majka à 2 km du col du sommet des lacets du Grand Colombier, 2 km qui sont les moins difficiles de l'ascension, ça va être plus facile pour lui désormais. Le groupe maillot jaune est lui pointé à 5 minutes 25. On trouve tous les cadors dans ce groupe maillot jaune sans exception, un Français, Romain Bardet dans ce groupe.
Et pour l'instant ça ne bouge pas, personne ne bouge, le train imposé par les coéquipiers de Chris Froome empêche toute velléité offensive. On se retrouve dans quelques instants pour les 15 derniers kilomètres de cette étape.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Il reste encore 15 km à parcourir dans cette 15e étape du Tour de France sur les routes du Bugey et sur ce col du Grand Colombier qu'on a franchi une première fois et même une deuxième fois avec les lacets du Grand Colombier. Et là, nous sommes dans les derniers hectomètres. En tous les cas, pour les hommes de tête, on va retrouver la moto RMC, Georges Quirino, qui se trouve, je crois, toujours en compagnie de Rafał Majka, le Polonais de la formation Tinkoff, qui possède quelques 30 secondes d'avance sur ses contre-attaquants. Georges.
Exactement, dans l'ombre, sous une température un peu plus fraîche au sommet de ces lacets du Grand Colombier. Il est désormais sur une partie de l'accès de
Georges, je te coupe, attaque de Romain Bardet en tête de peloton maillot jaune.
Accélération effectivement du coureur auvergnat de l'équipe AG2R La Mondiale. C'est un terrain pour lui, c'est une journée pour lui. On est sur des pentes raides, des routes étroites avec un final d'étape en descente, une descente très technique qu'il a parfaitement négocié tout à l'heure lors de la première dernière descente en direction de Culoz. Il a fait le break, Romain Bardet, et derrière ça ne réagit pas. Christopher Froome est toujours accompagné de Wouter Poels et de Mikel Nieve. À ses côtés également Richie Porte et Van Garderen. Pour l'instant, personne ne réagit à l'attaque de Romain Bardet. Rafał Majka passe au sommet des lacets du Grand Colombier à 14 km de l'arrivée.
Il a du mal à faire les écarts tout de même, Romain Bardet, parce que derrière, le train imposé par les Sky est toujours aussi impressionnant, Jérôme.
Parce que tout simplement, Richie Wouter Poels est aussi fort que Romain Bardet et donc il a juste à mettre un cran au-dessus, tout simplement, et il va chercher les uns après les autres. Tout à l'heure, c'était à Valverde et Arou, et maintenant, c'est au tour de Romain Bardet de faire prendre 20 mètres, 30 mètres, et puis de plafonner, de toxiner. On gère très très bien de la part de l'équipe Sky. À noter qu'au passage au sommet des lacets du Grand Colombier, 23 secondes d'avance pour Majka sur les deux contre-attaquants Pantano et Reichenbach.
Voilà, Bardet qui continue d'appuyer sur les pédales, il a fait un tout petit écart,
oui,
tout de même,
mieux,
la frette.
Ça va mieux. Romain Bardet qui est en train d'effectuer une double accélération, il a mis un peu de temps pour digérer son attaque, et là on est sur des pentes qui sont beaucoup moins prononcées. On vous l'a dit tout à l'heure, dans le final de ces lacets du Grand Colombier qu'il a reconnu, Romain Bardet, eh bien il sait qu'il peut creuser et imprimer son rythme. Une quinzaine de secondes d'avance maintenant pour Romain Bardet, qui était septième du général, pardon, ce matin, à 4 minutes 04 de Christopher Froome, qui vise le top 5, pourquoi pas un podium. Excellent descendeur, ce Romain Bardet, qui était allé chercher la gagne dans son étape de Praloux sur le Dauphiné, dans la descente du col d'Alos, idem vers Saint-Jean-de-Maurienne l'an passé. Bis repetita pour l'instant, ouais, pour le meilleur français au classement général.
Est-ce qu'il y a des dégâts dans ce groupe maillot jaune suite à l'accélération de Bardet, et donc l'accélération aussi de la formation Sky? J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de lâchés, hein. TJ Van Garderen,
la seule victime de l'accélération de Romain Bardet, c'est effectivement l'américain de la BMC, TJ Van Garderen, qui était en difficulté lors de l'attaque du français.
Voilà, alors là nous sommes à un deuxième étage de la course parce que devant évidemment il y a la bagarre pour la victoire d'étape, avec toujours Rafał Majka qui est en tête et ses poursuivants qui tentent de revenir, en l'occurrence Reichenbach, qui est à 25 secondes environ.
Reichenbach et Pantano, mais Reichenbach est un très mauvais descendeur. Il ne descend pas les mains en bas du guidon, il descend les mains sur les cocottes. Il nous a déjà fait peur tout à l'heure dans la première descente du Grand Colombier. 12 km de l'arrivée pour l'homme de tête Rafał Majka, qui a priori, s'il négocie bien la descente, a toutes les chances de remporter une quatrième victoire d'étape, lui qui avait été sacré meilleur grimpeur du Tour et qui ce soir endossera à nouveau le maillot à poids de meilleur grimpeur.
Et nous sommes dans le Grand Colombier et nous avons un petit Colombien, un copyright Pierre-Yves Leroux, qui vient de me communiquer ce petit jeu de mots. Le petit Colombien, c'est évidemment Quintana. Et oui, mais c'est pas mal, parce que Quintana, une nouvelle fois, eh bien, n'arrive rien à faire. Il faut dire que le rythme, Cyril, des Sky est toujours aussi impressionnant, qu'ils reviennent petit à petit sur Romain Bardet.
Non, là, il n'y a absolument rien à faire contre Wout Poels, qui fait ce qu'il veut en tête du groupe. Donc, il le laisse à 30 mètres et puis ils vont aller le chercher juste au sommet. On a même vraiment l'impression que Poels ralentit pour ne pas aller chercher trop tôt.
Oui, c'est terrible. Ils sont trop forts.
Et d'ailleurs, il y a, à part Van Garderen, qui aurait peut-être sauté sans ça, d'ailleurs, parce que j'ai pas le sentiment que les Sky aient accéléré. Enfin, il n'y a pas eu de réaction visible, tout du moins, des Sky sur l'attaque de Romain Bardet.
Ça va très vite quand même, Cyril.
Ah, ça monte très vite.
À l'avant de ce groupe maillot jaune, on est sur les replats qui précèdent le passage au sommet. Romain Bardet qui voit revenir derrière lui les coéquipiers de Christopher Froome et l'ensemble du groupe maillot jaune. Il s'est retourné sur sa droite, Romain Bardet. Il en a perdu ses lunettes, des lunettes qui étaient fixées sur son casque. Romain, les lunettes, c'est soit sur le nez, soit dans la poche. Ça ne tient pas toujours très bien dans les trous.
Majka.
Et on est dans la descente. On vous le rappelle, dans la descente du Grand Colombier en ce qui concerne la tête de la course. Bientôt les favoris qui vont basculer au dernier col de la journée. Rafał Majka a failli tirer tout droit. Il est allé faire un tour dans le jardin sur la droite de la route. Il va perdre du temps sur ses poursuivants. Pantano, Reichenbach et Villarmoz.
Et oui, Villarmoz qui a réussi à recoller derrière Reichenbach et qui va avec ses qualités de descendeur sans doute lâcher le coureur source de la formation FDJ, Jérôme.
Oui, il y a des chances.
Pantano, il est où?
Pantano doit être intercalé, Cyril, entre Majka et Reichenbach, parce que Pantano est un très bon descendeur et Sébastien confirme que c'est pas son truc la descente, et c'est vraiment dommage parce qu'il a fait une superbe montée.
Non, j'ai l'impression que quelqu'un est en train de se positionner à l'avant du groupe maillot jaune, mais non, ce n'est pas le cas.
C'est la guerre pour se replacer le mieux possible, Christophe, pour la descente, parce qu'on arrive au sommet pour le groupe maillot jaune, et là ça va être la bataille de la plus
position. Oh là 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 là, Romain Bardet absorbé par le groupe maillot jaune au passage au sommet. Romain Bardet qui voulait aller récupérer un bidon ou quelque chose auprès d'un soigneur au passage au sommet, mais manque de chance, le train Sky lui est passé sur la droite, il n'a pas pu se saisir de ce dont il avait besoin. Passage chaotique pour Romain Bardet qui va devoir négocier au mieux la descente. Tout le monde est dans la descente, 10 km de l'arrivée pour l'homme de tête Rafał Majka.
Les 10 derniers kilomètres de cette 15e étape du Tour.
Les 8 secondes seulement. Les 10 derniers kilomètres.
Et oui, la victoire d'étape n'est peut-être pas encore jouée puisque Cyril vient de nous communiquer la formation. Il n'y a plus que 8 secondes d'avance pour Majka qui a bien failli tout à l'heure faire un tout droit, qui a perdu quelques secondes. Et lorsqu'on sait que derrière, eh bien, ça rentre à toute vitesse avec des formidables descendeurs, notamment Villermoz, eh bien, la victoire d'étape n'est peut-être pas encore jouée, Fred.
Oui, Rafał Majka qui s'est fait peur, une frayeur tout à l'heure en tirant tout droit dans un virage à gauche. Il est allé sur la droite dans l'herbe. Rafał Majka qui résiste toujours avec une moto derrière lui intercalée entre lui et les poursuivants. Il a repris confiance en lui et il négocie à nouveau bien les ultimes virages de cette descente qui est très technique, on vous le rappelle. Retour
Pantano
à l'instant du Colombien Jarlinson Pantano qui revient comme un boulet de canon sur son ancien compagnon d'échappée. Attention Pantano, le Colombien de la formation Yam Cycling qui sur le plat va plus vite que Rafał Majka
aussi, hein.
Deux hommes en tête à 8 km 800 de l'arrivée. Rafał Majka voit revenir dans ses rétroviseurs le Colombien Jarlinson Pantano, le duo Reichenbach-Villermoz, et lui à 25 secondes.
Est-ce qu'on peut encore combler ces 25 secondes pour Villermoz, Jérôme?
Ça va être compliqué, on a vu la vitesse dont à laquelle est arrivé Jarlinson Pantano sur Majka, et c'est bien et bien la descente de ce col du Grand Colombier qui sera le juge de paix aussi bien devant pour la victoire d'étape mais aussi derrière, parce que derrière il va y avoir de la nervosité et attention de ne pas aller à la faute. Pour le moment Villermoz continue à prendre les mêmes trajectoires que Reichenbach, donc il va continuer à perdre du
et
temps.
Oui, il faudrait qu'il passe devant Reichenbach, peut-être n'en a-t-il plus les moyens, Fred. Peut-être est-il un peu sec, Villermoz qui a fait un gros effort pour revenir déjà sur le Suisse de la FDJ.
Et Villermoz qui est moins lourd que Reichenbach, donc qui descend naturellement moins vite, mais au niveau des trajectoires il ne peut que mieux faire que le fer à repasser suisse qu'est Sébastien Reichenbach dans les descentes. Fer à repasser, c'est l'appellation contrôlée pour qualifier un piètre descendeur. Reichenbach et Villermoz qui sont à 25 secondes
attention,
du duo tête.
Attention, il va falloir observer le comportement de Rafał Majka maintenant sur les 7 km de plat qui séparent la fin de la descente à l'arrivée. Majka se sait moins rapide au sprint que le Colombien et ça peut profiter à notre duo français. Si Majka refuse les relais à Pantano, il y a encore un espoir pour le duo derrière franco-suisse. Sébastien n'est pas français, il est suisse. Mon ancien coéquipier, parfois j'ai l'impression qu'il est français. Mais c'est vrai que attention, et Majka passe des relais avec Pantano, ça risque d'être compliqué.
Avec, on le rappelle, donc deux hommes en tête, Pantano de la formation YAM et Majka, le Polonais, champion de Pologne de la formation Tinkoff, qui possède combien d'avance sur leur premier contre-attaquant, Fred?
25 secondes d'avance pour Rafał Majka et Jarlinson Pantano, le duo polono-colombien sur le duo franco-suisse Alexis Villermoz et Sébastien Reichenbach. On est maintenant sur les portions planes et ensoleillées en direction de Culoz à 6 km 800 de l'arrivée. C'est un mano à mano entre deux hommes contre deux hommes, Pantano Majka contre Villermoz et Reichenbach. Quel duo ira le plus vite avant la ligne d'arrivée ici à Culoz?
Et impression effectivement, Majka ne prend pas trop de relais, il laisse Pantano tout faire.
On se regarde du côté des deux coureurs de tête. En tout cas Majka passe mais il n'y met aucune conviction. Il a raison le Polonais, parce que à quoi bon passer des relais quand on sait qu'on va être battu dans l'emballage final. Attention à ça.
Alors qu'il y a un coéquipier
Mikkel Niemi, lui, est sorti dans le même virage que tout à l'heure Rafał Majka, virage piégeux qui a été fatal à l'un des coéquipiers de Christopher
Froome. La moto RMC Georges Quirino avec les deux hommes de tête à moins de 6 km de l'arrivée.
Sur ce faux plat descendant avec Jarlinson Pantano qui est en train de prendre un relais à Rafał Majka. On est sur une longue ligne droite. Maintenant, on a vu les deux hommes beaucoup discuter effectivement sur les relais à prendre. Et dans cette longue ligne droite, on ne voit pas derrière les premiers poursuivants, Sébastien Reichenbach et Alexis Villermoz, les deux coureurs de tête qui continuent d'accélérer dans cette portion très rapide. Il est bien cantonné dans sa roue derrière Rafał Majka, dans la roue de Pantano qui pour l'instant assure les gros relais de ce duo.
Et derrière, Georges, est-ce que tu vois les deux hommes revenir quelque peu?
Non. C'est ce que je te disais. Dans les longues portions de ligne droite, là, on ne les voyait pas. Richard Barr et Vuillermoz.
Nous sommes à 5. On nous annonce 30 secondes.
30 secondes d'écart, évidemment, pour les deux hommes de tête. Ça semble râpé. Il n'y aura pas de victoire d'étape française, encore une fois, aujourd'hui, Fred.
Oui, Jérôme nous alertait tout à l'heure sur l'attitude de Rafał Majka dans le duo tête face à Jarlinson Pantano, qu'il sait, a priori, intrinsèquement plus rapide. A priori, Rafał Majka passe quelques relais, mais des relais bien sobres et bien discrets.
On va derrière la ligne d'arrivée. Pierre-Yves Leroux a pris position pour suivre l'arrivée. Et je crois qu'il y a des reporters colombiens qui sont en furie, non pas pour Quintana, mais pour Pantano, oui, Pierre-Yves.
Oui. Ils sont assis tous les deux au milieu des journalistes devant les écrans. Tiens, on les écoute. Tiens, je tends le micro juste un instant. Le suspense est entier, vous l'entendez, pour les commentateurs colombiens avant l'arrivée et peut-être une victoire colombienne ici.
Eh oui, 27 secondes d'écart au dernier pointage entre les deux hommes de tête et le groupe Reichenbach Vuillermoz qui n'arrive pas à combler l'écart, hein, Jérôme. C'est impossible.
J'ai l'impression que Vuillermoz continue à passer des relais à la Majka, c'est-à-dire de temps en temps quand il peut et quand il en a envie, mais pour l'instant c'est pas assez saignant, assez franc pour espérer reprendre quoi que ce soit.
Allez Fred, on fait un nouveau point. Nous sommes à 4,3 km de l'arrivée, alors qu'en tête de groupe maillot jaune, une attaque de Valverde ou de Quintana.
Valverde et Romain Bardet font la fin de la descente, eux qui l'on avait vu à l'attaque dans l'ascension des lacets du Grand Colombier. On en termine en ce qui concerne le groupe maillot jaune avec cette descente très technique, et Alejandro Valverde ainsi que Romain Bardet sont deux excellents descendeurs. Ils n'ont pas réussi à faire le break, mais tout de même ils ont réussi à pousser à la faute, on l'a dit tout à l'heure, Mickaël Nieve, l'un des lieutenants de Christopher Froome au sein de la formation Sky. Bientôt les pentes, les portions planes pour le groupe maillot jaune. La course se joue à deux échelons, en tête de course à 3,8 km de l'arrivée, avec une avance toujours de 30 secondes entre Majka Pantano et le duo franco-suisse Vuillermoz et Reichenbach. Le groupe maillot jaune, lui, est à 4 minutes 05. Bardet et Valverde n'ont pas réussi à faire le trou.
Et un groupe intercalé qui comprend, on vous le rappelle, Julian Alaphilippe, qui a été victime d'un ennui mécanique dans la première descente du col du Grand Colombier, qui n'a pas réussi à revenir sur les hommes de tête et qui ne va pas aller donc chercher la victoire d'étape aujourd'hui. Les coéquipiers de Quintana qui essayent de faire le métier, mais devant on a repris place en tête avec les hommes de Froome qui reprennent possession de la tête de ce groupe maillot jaune.
Oui, c'est Wouters qui emmène dans sa roue évidemment Christopher Froome, le maillot jaune. Valverde est là avec un équipier de la formation Movistar. Wouters qui parle à son émetteur, à son micro dissimulé dans son maillot jaune, peut-être pour prendre des nouvelles de Mickaël Nieve qu'il a vu chuter tout à l'heure dans un virage à gauche. 3,3 km de l'arrivée pour le duo de tête Majka Pantano.
Le duo de tête derrière ou devant lequel se trouve la moto RMC de Georges Quirino de Marco.
On est juste devant et Rafał Majka qui vient de prendre le relais à Jarlinson Pantano. Ils passent tous les deux sous la banderole des trois derniers kilomètres. Désormais Pantano qui reprend le relais au Polonais. On a vu les deux hommes se débarrasser il y a quelques instants des derniers bidons qu'ils avaient avec eux sur leur vélo pour être le plus léger possible pour aller se disputer la victoire au sprint à deux dans quelques instants pour les deux hommes dans les rues de Culose.
Est-ce que l'écart est vraiment trop important, Cyril, pour permettre à Reichenbach qui envoie du lourd depuis un grand moment maintenant, sacré rouleur quand même que le sud de la formation FDJ?
Oui, mais c'est il y a 20 secondes, c'est l'échappé qui va décider si ça revient ou pas. Ou il se regarde vraiment dans le dernier kilomètre et ça peut revenir. Mais là, compte tenu de la progression des deux groupes, logiquement, il ne devrait pas être joint. Sauf, bien sûr, si on se regarde et qu'on se met à 15 à l'heure devant.
Allez, nous sommes à 2,5 km de l'arrivée, Fred, avec la victoire d'étape qui va donc se décider entre un Polonais, Rafał Majka, et un Colombien nommé Pantano, qui n'est pas le cousin de Pantani, comme non, tout le monde le sait.
Non, le regretté Marco Pantani, ancien vainqueur du Tour, ancien grimpeur d'exception. On parle là d'un coureur colombien que Jérôme a bien connu chez YAM Cycling, Jarlinson Pantano, qui a remporté une étape du Tour de Suisse le mois dernier et qui n'a pas l'habitude de beaucoup gagner, âgé de 27 ans. Il est accompagné donc de Rafał Majka qui, lui, sait cibler, viser certaines étapes, les cocher, comme disent les coureurs. pour aller s'imposer, notamment vainqueur l'an passé à Cotteret, déjà vainqueur de 3 étapes. Rafał Majka, le Polonais, ancien meilleur grimpeur du Tour. Ce duo passe à l'instant sous la banderole des 2 km et derrière eux le duo franco-suisse Alexis Villermoz, Sébastien Reichenbach se rapproche seconde après seconde.
17 secondes.
Il y croit encore, GG, il y croit encore.
J'y crois tout simplement parce qu'à un moment donné, si le Polonais veut gagner cette étape, il va falloir se mettre dans la roue du Colombien et ne plus rouler et jouer avec ses coronesses parce qu'il voilà, va falloir tout donner pour le Polonais, essayer de le piéger, ce Colombien qui est beaucoup plus rapide que lui. Et si on se regarde un peu trop derrière, ça peut vite revenir pour le duo franco-suisse.
Et oui, parce que derrière on s'entend bien, en tous les cas on s'entend pas, puisque Reichenbach fait les relais tout seul. Villermoz ne prend pas beaucoup de relais, Fred, hein.
Oui, Reichenbach qui ne demande rien à personne, évidemment.
Oui,
Reichenbach qui va probablement permettre à Alexis Villermoz de revenir à quelques encablures et peut-être même sur le duo tête, un duo tête qui passe sous la flamme rouge du dernier kilomètre.
La flamme rouge du dernier kilomètre dans cette 15e étape du Tour de France. Vont-ils réussir à revenir? Villermoz qui prend des relais maintenant en emmenant Reichenbach. Ils ont quand même une grosse quinzaine de secondes de retard, me semble-t-il, hein.
Oui, ce sera dur, mais c'est une séance de surplace qui se profile entre les hommes de tête. Jarlinson Pantano, le Colombien de l'équipe Yam Cycling, et Rafał Majka, champion de Pologne, coureur de l'équipe Tinkoff Saxo, grimpeur émérite, 26 ans et 27 ans, Majka et Pantano, et qui, s'il se retourne, voit revenir à 10 secondes maintenant Sébastien Reichenbach, le Suisse de la FDJ, qui emmène dans sa roue le Jurassien Alexis Villermoz. Vont-ils rentrer sur les deux hommes de tête, ce duo franco-suisse? On vous rappelle que Villermoz avait déjà remporté une étape à Mur de Bretagne l'an passé. Villermoz qui à l'instant passe un relais à Sébastien Reichenbach. Reichenbach évidemment intéressé par le classement général, lui qui pointait ce matin à 11 minutes 40 de Christopher Froome, qui peut faire une bonne opération au classement général. C'est pour ça qu'il ne demande rien à personne et rien à Alexis Villermoz devant. Ça y est, Pantano a à nouveau accéléré et c'est Rafał Majka qui lance le sprint à 250 mètres de la ligne. Il lance de loin Rafał Majka avec Jarlinson Pantano qui se cale dans sa roue et qui va le déboîter plein champ. Jarlinson Pantano, le Colombien de l'équipe Yam Cycling, qui va remporter le plus beau succès de sa carrière à 27 ans. C'est le Marquis Pantano qui s'impose devant Rafał Majka. Troisième place pour Alexis Villermoz devant Sébastien Reichenbach à 7 secondes seulement du duo de tête. La cinquième place va être prise par Julien Alaphilippe, qui tout à l'heure était en tête de la course et qui s'est arrêté dans la descente du Grand Colombier, victime d'un problème mécanique. Julien Alaphilippe qui en termine avec 21 secondes de retard sur la tête de course. On va maintenant observer le groupe maillot jaune. Quelle joie, quelle grande joie du coureur colombien Jarlinson Pantano, qui c'est sûr a décroché là un contrat pour l'année prochaine.
Voilà, c'est pas le Colombien que l'on attendait aujourd'hui dans cette étape de montagne. On attendait peut-être plus certainement Quintana, mais Pantano nous a régalé dans cette étape. Malheureusement, de gros regrets, Jérôme, pour les Français. Troisième Villermoz et surtout cinquième Alaphilippe, alors qu'il avait une forme étincelante aujourd'hui sans son problème mécanique. Il aurait sans doute joué la gagne.
Et oui, exactement, on le rappelle, Julien Alaphilippe, quand il a eu son problème mécanique, était en compagnie du Colombien qui s'est imposé aujourd'hui. C'est-à-dire que Julien était l'un des plus forts aujourd'hui, et ce soir, sans aucun doute, il va être très 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 déçu, le jeune Français.
Nous allons derrière la ligne d'arrivée avec Pierre-Yves Leroux, qui se trouve, je crois, aux côtés d'Alexis Villermoz. Pas loin,
Alexis,
en tous les cas.
Villermoz, on va pouvoir l'écouter. Surtout qu'en haut du Grand Colombier, je bascule avec Pantano, j'avais les moyens de le suivre. Malheureusement, je suis resté dans la roue de Sébastien Reichenbach et il a perdu un peu de temps sur lui. Et j'ai perdu contact à ce moment donné et j'ai jamais pu revenir, même si à chaque fois j'étais vraiment pas très loin. En haut des lacets du Grand Colombier, il y a 5-10 secondes, grand maximum. Et voilà, on finit à 4 secondes de la victoire. C'est forcément frustrant sur une étape de haute montagne. J'avais à cœur de montrer que je pouvais être un bon grimpeur. J'avais à cœur de montrer que la forme était ascendante depuis le début du tour, que j'avais eu un début de saison compliqué, mais que je suis bien là en juillet et en août. Ça continuera dans ce sens-là. Et je peux bien le prouver encore à l'avenir.
Alexis, la saison, elle n'est pas finie. On a vu aussi tes qualités de descendeur aujourd'hui. Ça va le faire. Il y a encore une semaine à aller chercher. On te sent très remonté, très frais, justement, avant cette dernière semaine dans les Alpes, même s'il y aura du boulot avec Romain, forcément.
Oui, mais je pense déjà avoir montré dans les Pyrénées que je suis monté en pression. Au moment où je suis loin de faire une mauvaise montée, en ayant fait un gros travail au pied pour Romain. Voilà, j'avais dit que je sentais que la forme était ascendante. Je pense le confirmer encore aujourd'hui. Donc, effectivement, il reste une belle dernière semaine pour m'exprimer et pour que l'équipe agile à la mondiale concrétise.
Si c'est peut-être votre place pour les Jeux Olympiques que vous êtes allé chercher aujourd'hui.
Ah, je l'espère. En tout cas, j'ai montré que j'avais une trajectoire de forme ascendante et que j'allais monter en pression comme l'année passée durant le mois d'août. L'année passée, durant le Tour de France, j'avais été moyen. Et on a vu qu'à Saint-Sébastien et au Test Event, j'avais vraiment passé un cap. J'espère que le sélectionneur s'en rappellera et que je suis bien sur cette même trajectoire. Et je pense que ça le confirme d'autant plus avec, avec mon début de saison perturbé par de nombreuses chutes. Et voilà, j'étais vraiment en manque de course. Et on voit que jour après jour, je progresse. Je récupère vraiment bien en bien, de mieux en mieux. Et j'espère pouvoir être présent aux Jeux Olympiques.
Merci. Merci beaucoup Alexis Villermoz, en sueur, mais vous voyez qu'il y a le moral quand même, qu'il y a du mental derrière. On va essayer de retrouver la route, Julien Alaphilippe.
Et oui, évidemment,
dans quelques instants.
Merci Pierre-Yves. Alors que le peloton maillot jaune, emmené par évidemment l'un des coéquipiers de Chris Froome, en finit à son tour sans qu'il y ait eu la moindre bagarre, en tous les cas sans qu'il y ait eu le moindre écart fait sur Chris Froome. Une nouvelle fois impressionnant, surtout son équipe, hein,
Franck. Ouais, oui, ça nous rappelle le scénario dans l'étape du Cantal vers le Lioran, puis dans les Pyrénées, quand on vous disait que c'était assez écœurant de courir contre les Sky. Probablement la machine est parfaitement réglée quand ce n'est pas Geraint Thomas, c'est Mickaël Nieve, quand c'est pas Nieve, c'est Sergio Henao, quand c'est pas Henao, c'est Wouter Poels. Christopher Froome a toujours un équipier d'un niveau exceptionnel pour l'accompagner en montagne. Il n'a pas du tout été inquiété aujourd'hui, Christopher Froome, dans cette étape très nerveuse avec beaucoup d'ascensions, 5 ascensions dont le Grand Colombier dans son intégralité avant les lacets du Grand Colombier, des cols hors catégorie, première catégorie. La descente était scabreuse, technique, mais il n'a jamais été inquiété, Christopher Froome, malgré l'attaque tout à l'heure de Fabio Aru, celle de Valverde, celle de Romain Bardet, le groupe maillot jaune qui en termine avec 3 minutes 10 de retard derrière le vainqueur du jour, le Colombien Jarlinson Pantano.
Et on revient dans un instant pour essayer d'avoir les réactions de Alaphilippe ou encore de Romain Bardet qui a tenté tout à l'heure mais qui n'a pas réussi à creuser l'écart. A tout de suite sur la route du Tour, la victoire de Pantano aujourd'hui ici à Culoz.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
C'est un Colombien qui s'est imposé ici à Culoz au terme de la 15e étape du Tour de France. Pantano qui s'impose devant son compagnon d'échappée, le Polonais Maïka. Le premier Français, eh bien il est 3e. C'est Alexis Villermoz de la formation AG2R, la mondiale, que l'on a entendu il y a quelques minutes au micro de Pierre-Yves Leroux. Un autre Français termine 5e, Julien Alaphilippe, on le rappelle, victime d'un ennui mécanique alors qu'il semblait vraiment dans un grand jour aujourd'hui. Il a réussi à reprendre du temps, mais malheureusement pas assez pour aller jouer la victoire d'étape. Le peloton au maillot jaune réglé un peu plus tard avec un retard d'environ 5 minutes par les coéquipiers de Chris Froome.
3 minutes 10.
Ah oui, ils sont revenus également dans la descente. On va aller derrière la ligne d'arrivée, retrouver Pierre-Yves Leroux qui cherche Romain Bardet, qui cherche Julien Alaphilippe.
Je l'ai trouvé, Romain Bardet. Je l'ai trouvé à côté de son bus, mais il a décidé de pédaler encore, de faire des rouleaux pendant quelques instants avant de pouvoir répondre aux questions. J'aperçois, tiens, Michel Teta, le patron de YAM. On va essayer de s'approcher et puis de faire un petit direct avec le patron. Mais allez-y, mon cher, vous pouvez commencer les questions, il n'y a pas de souci. On imagine que c'est une grande satisfaction pour vous.
C'est un grand jour, c'est une grande satisfaction, bien sûr, puisqu'on a préparé cela depuis longtemps. Et donc, c'est avec émotion que vous voyez que je vis ce moment.
Et on le sent, c'était très attendu parce que l'histoire est particulière pour vous avec cette équipe qui s'arrête prochainement.
Oui, c'était attendu. Tout ce qu'on a réalisé depuis le mois de mai, ces victoires, le Giro, le Tour de Suisse, ces belles places, deuxième, quatrième, dans toutes les disciplines, le sprint, la montagne. Oui, c'était en quelque sorte, c'était préparé. Il n'y a pas de corrélation avec la fin de l'équipe, mais c'était le moment où le team était prêt, tout était prêt pour que le déclic se fasse. Il ne s'est pas fait les autres années, c'est injuste, il se fait cette année, c'est peut-être trop bon.
Et puis on arrive en Suisse demain. Comment vous avez vécu ces derniers kilomètres là ?
Ah, je sais plus. Fabrice, oui, je savais qu'il fallait que je sois là aujourd'hui. Et c'est pas par hasard, donc c'est peut-être mon fluide, vous voyez, qui a poussé Pantano, parce que dans les derniers kilomètres, vous êtes tout le temps derrière, hein, à quelques mètres près, donc vous voyez exactement ce qui se passe. Pantano s'est reculé un petit peu dans le dernier kilomètre, à la montée, on savait qu'il était beaucoup plus fort que tout le monde dans la descente, donc il fallait pas qu'il s'affole, il fallait pas qu'il prenne trop de risques non plus. Il a tout fait juste, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
On a vu un... Merci beaucoup à Michel Teta. J'allais lui dire qu'on avait vu un grand Colombier et un grand Colombien, mais bon, je ne sais pas si ça l'aurait fait sourire.
Il n'aurait pas compris, je pense. C'est trop subtil.
On va retourner du côté de Romain Bardet pour l'entendre dans quelques instants.
On va essayer d'écouter Gerlinson Pantano.
Franck, notre leader qui hier s'est retiré de Carlesta Victoria. Elle,
et... J'ai pensé à Mathias Franck qui s'est retiré hier, notre leader chez YAM, et gagné aujourd'hui, ça a une saveur particulière. On va faire parler anglais à Gerlinson Pantano, c'est dommage. C'est un rêve qui devient réalité aujourd'hui. On n'a plus le retour de Gerlinson Pantano.
En anglais, il était pas assez bon pour la couper.
En attendant, Gerlinson Pantano, 27 ans, remporte évidemment le plus beau succès de sa carrière. Lui qui avait terminé 19e du Tour de France l'an passé. Il n'avait fait que suivre ou se mêler à des échappées au long cours, mais des échappées matinales. Un coureur qui vient de Cali, en Colombie, donc, et qui est quasiment ému aux larmes aujourd'hui, évidemment. On rappelle que l'équipe YAM termine à la fin de l'année, le sponsoring s'arrête et nul doute qu'avec cette victoire, Gerlinson Pantano a trouvé un voire deux contrats pour l'année prochaine. Gerlinson Pantano qui devance sur la ligne d'arrivée ici à Culoz au terme d'une étape montagneuse, Rafał Majka, Alexis Villermoz, Sébastien Reichenbach et Julien Alaphilippe, cinquième.
Et Vincent Lavenue, le manager de la formation AG2R La Mondiale, est aux côtés de Pierre-Yves.
On l'écoute tout de suite.
Et il était à la hauteur puisqu'il a tenté quelque chose dans le final. Malheureusement, je pense que le groupe de tête était encore un peu trop important, avec notamment beaucoup d'équipiers du maillot jaune. Donc voilà, il a osé, il a permis quand même de faire lâcher Van Garderen, qui est un adversaire direct à Romain. Donc la journée globalement est positive.
Vous avez attaqué, vous avez essayé, c'est ça, oui.
Oui, mais vous savez, voilà, il y a aussi Valverde qui a tenté un petit coup sur le bas. Bon, ça n'a pas permis de faire exploser le groupe. Hein. Je pense que les coureurs ont encore un petit peu peur du menu qui les attend, notamment dans les Alpes sur les dernières journées. Voilà, maintenant, il ne faudra peut-être pas trop attendre si on veut déstabiliser le maillot jaune ou espérer monter sur le podium.
Les derniers kilomètres, vous pensiez qu'Alexis allait pouvoir rentrer ?
Oui, bien sûr, on avait les temps, donc on voyait bien que ça se rapprochait. On a entendu 20 secondes, 17 secondes, 13 secondes, 6 secondes, voilà, donc on pensait que c'est jouable. Si les deux coureurs s'étaient regardés un petit peu à l'avant, c'était jouable, mais bon, les oreillettes fonctionnent dans tous les sens aussi, donc les deux coureurs étaient aussi au courant que Alexis revenait derrière avec la chaîne barre, donc forcément, voilà, la victoire est méritée par le coureur qui a gagné aujourd'hui.
On regrettait que chez les leaders, il n'y ait pas plus d'attaques comme l'a fait Romain.
Vous savez, quand le maillot jaune est avec lui encore deux équipiers, donc évidemment, il n'y a plus beaucoup de possibilités pour la suite.
On va essayer de passer par-dessus les barrières parce que Romain Bardet va répondre, mais ça va être assez compliqué. On essaye de l'entendre dans un instant.
Voilà, Pierre-Yves Leroux qui fait le hurdleur et qui passe par-dessus les barrières. Tu nous préviens, dès que tu es en position, on va donc rappeler la victoire d'étape de Gerlinson Pantano, le Colombien, peut-être pas le Colombien que l'on attendait aujourd'hui, même si on en a marre d'attendre Quintana. Je pense qu'il faudra peut-être attendre le 25 ou le 26 juillet pour le voir à l'attaque.
Non, Nairo Quintana qui, c'est vrai, n'a pas attaqué aujourd'hui, au contraire de Valverde, dans les lacets du Grand Colombier. Valverde qui répondait à une attaque de Fabio Aru, ensuite c'est Romain Bardet qui a tenté sa chance lui aussi, mais voilà les trois seuls coureurs qui ont tenté d'inquiéter le maillot jaune Christopher Froome aujourd'hui.
Romain Bardet avec Pierre-Yves Leroux.
Exactement, Romain qui est en train de se préparer, qui fait des rouleaux dessus et qui met des glaçons dans sa veste pour récupérer aussi. Est-ce que c'est bon pour Romain? On va pouvoir commencer dans un instant. Romain, c'était une étape auquel vous teniez particulièrement et vous avez essayé, Romain, aujourd'hui, ça a réagi derrière.
Oui, bien, j'ai essayé parce que c'est des routes que je connais bien, des routes que j'adore. Et voilà, je pensais que ça pouvait déjà faire quelques différences. Après, l'idée, c'était pas de partir seul parce qu'il y avait quand même de la vallée pour revenir. Et face à un groupe où il restait encore 3 Sky, voilà, c'était pas une bonne opération. Donc, quand je suis parti, j'espérais un petit peu de renfort de l'arrière. Il n'est pas venu, donc j'ai pas vraiment insisté.
C'est pas d'avoir Valverde derrière.
Si, mais Valverde est pas. Voilà, il est resté avec Quintana. Je pense qu'ils ont une tactique bien définie pour la troisième semaine et ils veulent pas trop se découvrir avant.
Romain, justement, toi, on t'a vu tenter d'aller te battre pour aller chercher ce podium contrairement à certains adversaires. Ça montre que tu as du panache et que tu as envie. Et puis cette dernière semaine, elle doit certainement te donner des idées et te débloquer psychologiquement parce que Sky qui écrase tout, 4000 mètres de dénivelé aujourd'hui, il n'y a personne qui tente à part toi finalement.
Non, mais chacun, je pense, c'est tactique. Hein. Faut pas acheter la pierre aux adversaires. Après, moi, c'est un terrain que j'aime bien, avec une descente sinueuse, une ascension où j'ai vraiment de bonnes sensations. Donc, c'est toujours bon dans la tête de se rassurer. C'est pas, depuis le Tour de France, je cours un peu contre nature en attendant mon heure. Voilà, je l'attends encore aujourd'hui. J'espère sonner le début du réveil et que ça va amorcer pour ma troisième semaine.
Et tu te sens de mieux en mieux.
Oui, on a prévu d'être au top pour la troisième semaine. C'est vrai que pour l'instant, à une semaine de Paris, les voyants sont ouverts.
Est-ce que c'est un peu le jour des regrets quand même avec Alexis qui termine à 5 secondes et puis vous qui n'arrivez pas à gagner un peu de temps?
Non, je n'ai pas du tout le jour des regrets. Le jour des regrets, il n'y en a pas eu depuis le début de tour. C'est notre premier podium sur le tour grâce à Alexis, et moi derrière je suis en position très favorable pour le général, donc j'ai une très bonne journée.
Plusieurs attaqués peut-être maintenant, c'est Sky.
Oui, après Sky, c'est vrai qu'il tout peut arriver encore dans la troisième semaine, mais Froome a déjà une avance très confortable. Après, il y a des places à aller gagner derrière et je pense qu'il y a beaucoup d'outsiders pour ça.
Merci. Voilà la réaction de Romain Bardet sur les rouleaux à côté de son bus à l'ombre. Évidemment, c'est un petit peu plus facile maintenant de pédaler par rapport à tous les efforts fournis, mais vous voyez, il n'y a pas de regret ni du côté de Romain Bardet, peut-être un peu plus quand même du côté d'Alexis Villermoz.
Évidemment, Alexis Villermoz qui laisse échapper la victoire d'étape, lui qui s'était déjà imposé sur les routes du Tour de France, c'était l'an dernier.
Il avait surpris tout le monde.
Ouais. Très bien, Romain Bardet qui gagne une position au classement général puisqu'il quitte la 7e place pour prendre la 6e
à TJ Van Garderen qui a sauté aujourd'hui, on le rappelle.
Voilà, on revient.
Victoire de Jarlinson Pantano, le Colombien de l'équipe Yam Cycling qui remporte là le plus beau succès de sa carrière à 27 ans. Il avait déjà remporté une étape du Tour de Suisse le mois dernier, il était en forme, il devance son compagnon d'échappée Rafał Majka, le Polonais qui n'a pas réussi à remporter une 4e étape dans sa carrière mais qui est le nouveau porteur du maillot à poids de meilleur grimpeur. 3e place pour Alex Villermoz, 5e, Julien Alaphilippe, aucun changement au classement général. Bardet passe de la 7e à la 6e place tout de même.
Et on revient dans un instant pour terminer ce direct, l'intégral tour dans quelques instants, au terme de cette 15e étape du Tour de France.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
La 15e étape du Tour de France remportée par le Colombien Pantano devant le Polonais Majka et le premier Français, il est 3e, c'est Alexis Villermoz. Un autre Français est dans le top 5, Julien Alaphilippe, le grand malchanceux du jour. Que s'est-il passé tout à l'heure pour Julien Alaphilippe? Peut-être que Pierre-Yves Leroux, qui est en compagnie du manager de la formation Ethics Quickstep, Patrick Lefebvre, va avoir une explication, Pierre-Yves.
Bah, peut-être qu'il va avoir une explication, on va lui demander. On vient de voir Julien Alaphilippe sortir du bus à l'instant et puis retourner vers le podium, peut-être le contrôle antidopage. Patrick, qu'est-ce qui s'est passé techniquement et mécaniquement?
Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Il était tout seul en tête et la descente était... L'asphalte était en beaucoup de bosse. On a même vu que la caméra de la télé avait des problèmes pour tenir son caméra droit. Et la chaîne a sauté. Mais bon, ça c'est pas une catastrophe. Normalement, tu peux le remettre manuellement ou même en roulant. Mais ici... la chaîne était coincée derrière les deux petits roues du derrière. Et bon, c'était fini, la dure réalité. La chaîne était allée en 8. Il a voulu le remettre, mais ça n'allait pas. Et comme il y avait le coureur partout, la voiture était à plus d'une minute, quoi.
Et finalement, il finit à une poignée de secondes. Donc on se dit que c'était peut-être son jour, vraiment.
C'était assez risqué de partir à 35 km de l'arrivée. Mais bon, il se connaît assez bien pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Mais bon, malheureusement, pour ce garçon et pour l'équipe aussi, c'est une catastrophe, quoi.
Vous dites que c'était peut-être un peu risqué. Est-ce qu'il est toujours un petit peu chien fou comme ça? Vous auriez préféré qu'il attende?
Chien fou, il y a un directeur sportif derrière qui peut lui donner des conseils, non? Sinon, ça ne sert à rien que vous ayez un directeur sportif.
Bon, il va peut-être y avoir des explications ce soir, alors il y a une petite réunion. En tout cas, on l'a senti très triste à l'instant, Julien. Vous avez pu discuter avec lui?
Oui, un peu. Il dit le plus terrible est être là à pied et tout seul en tête et voir que tous les autres passent et tu peux rien faire. Ça, c'est le moment plus dur de ma vie cycliste, il a dit. Mais en tout cas, on ne doit pas faire s'expliquer ce soir aux petites réunions parce que c'est un ennui mécanique. Il n'y a pas le directeur sportif ni le mécano qui puisse faire quelque chose. Dan Martin disait que même dans le groupe de Froome, ils avaient des problèmes pour gérer leur derrière.
Bon, c'est le moment le plus triste de sa carrière, mais elle commence juste, donc il y aura des meilleurs jours très certainement. Merci beaucoup Patrick Lefeuvert, le manager général de cette équipe ETX Quick-Step. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Julien Alaphilippe ne s'est pas mis à courir hein, sur la route, comme d'autres l'ont fait il y a quelques temps.
Oui, évidemment, mais il a perdu quand même beaucoup de temps. Les explications de Patrick Lefeuvert, Cyril.
Alors, elles sont à 80% justes, mais c'est vrai que on se demande à quoi servent les oreillettes. Tout à l'heure, on entendait Vincent Lavenu qui dit oui, ben nos coureurs ça connaissaient la situation puisqu'on leur donnait on leur donnait les écarts. Et il a ajouté, oui, mais devant aussi. Donc à ce moment-là, il faut supprimer les oreillettes. Et quand on sait que Vincent Lavenu est plutôt pour les oreillettes que contre, ça pose un problème. Faudra les supprimer, ces oreillettes. Mais il est vrai aussi que Alaphilippe a fait n'importe quoi.
Bon.
Car même avec son incident, s'il avait couru avec un peu de finesse, avec un peu de calme, je suis pas certain qu'il revenait pas pour la première place. J'en suis même sûr.
On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure entre 19h et 20h. Alaphilippe, évidemment, terriblement déçu. Il avait aujourd'hui la gagne dans les pattes, mais victime de, peut-être, de sa fougue et aussi, et plus certainement, de cet incident mécanique. A donc laissé échapper la victoire. Il termine cinquième. Fred, il nous reste 40 secondes pour récapituler les classements et donc la victoire d'étape d'un certain Pantano ici.
Et effectivement, Jarlinson Pantano, à ne surtout pas confondre avec le défunt Marco Pantani. Pantano est colombien, rien à voir avec l'ancien pirate Pantano qui devance ici à Culoz dans le massif du Bugey, en bas du Grand Colombier. Rafał Majka, le Polonais, son compagnon d'échappée au terme d'une 15e étape au profil montagne russe. C'était une vraie étape de montagne aujourd'hui et pas étonnant que ce soit un Colombien de Cali qui s'impose. 27 ans, le plus beau succès de sa carrière. Troisième place pour d'autres échappés qui ont terminé à quelques encablures du duo tête. Guillermo Zeraischenbar, cinquième place pour Alaphilippe. Au classement général, rien ne bouge si ce n'est que Romain Bardet à l'attaque dans la dernière montée. Passe de la 7e à la 6e place parce que l'Américain TJ Van Garderen, qui le devançait au classement général, a craqué aujourd'hui. Petit rapproché, mais Christopher Froome n'a pas du tout été inquiété aujourd'hui. Demain, on passe en Suisse, arrivé à Berne.
Et il reste très serein, Chris Froome, alors qu'il reçoit un nouveau maillot jaune ici sur le podium à l'arrivée à Culoz. Pantano vainqueur, Froome en jaune. On reparlera de tout ça tout à l'heure entre 19h et 20h. Mais en attendant, c'est l'heure de retrouver Frédéric Zermati pour le récap des courses hippiques du jour. Salut Fred.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Le quintet aujourd'hui se disputait sur l'hippodrome de Maisons-Laffitte et c'était justement le prix de la ville de Maisons-Laffitte. Et la victoire est revenue au numéro 13, Orpheas, la dernière minute RMC qui s'impose à 8 contre 1 et qui s'impose très sûrement aux dépens du numéro 12, Nice to See You, qui a très bien terminé. Le 8, Strive for Greatness, le favori de l'épreuve, se classe 3e. Et après Photographie, c'est le numéro 9, Opulent Doru, qui prend la 4e place aux dépens du numéro 2, 100 Acre. 13, 12, 8, 9 et 2 rapportent dans l'ordre et pour 2 euros, 23 448 euros. Demain, on va encore galoper, cette fois du côté de Chantilly. Et à l'image du quintet d'aujourd'hui à Maison Lafitte, c'est une épreuve très ouverte. Je vous conseillerais peut-être de faire confiance au numéro 10, Mourafège, qui vient de prendre une bonne deuxième place. Et à mon avis, cet élève de François Haro ne devrait pas tarder à remporter son événement. C'est peut-être pour ce lundi. Et puis j'aime beaucoup également la candidature du numéro 3, Rosati, qui pour son retour dans les handicaps se trouve très bien placé à mon sens. Un quintet, je vous rappelle, très ouvert. Donc si vous voulez d'autres infos et des paris, eh bien tout cela est disponible comme d'habitude sur le site d'rmcsport.fr.
PMU.fr, paris sportifs, paris hippiques, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
17h56, toujours pas de victoire d'étape française sur les routes de ce Tour de France 2016. On y a bien cru aujourd'hui, Martial, mais malheureusement, Villermoz et surtout Alaphilippe sont passés à côté de cette victoire d'étape.
Eh oui, Cyril, Cyril sera avec nous, Christophe, à 18h20 pour en parler, mais c'est pas grave, on aura un champion de vélo, un cycliste français qui gagne, qui a beaucoup gagné et qui espère encore gagner du côté de Rio. C'est le double champion olympique de VTT, Julien Absalon, qui sera avec nous dans l'Intégral Sport à 18h45. Ouf aussi pour l'équipe de France de Coupe Davis qui est en demi-finale. Tsonga a gagné. On détaille tout ça avec Florent Serra à 18h30 et puis évidemment l'Intégral Sport jusqu'à 19h avec toutes l'actu sport dans quelques instants.